Bonjour à tous, bonsoir, merci de votre présence toujours aussi nombreuse. Très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie de François Bégaudeau et Thomas B. Reverdy. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Bienvenue donc pour cette rencontre où on va bien sûr parler de vos nouveaux romans parus en cette rentrée littéraire avec, on va le voir, un certain nombre de points communs, ou en tout cas de fils sur lesquels on va pouvoir réfléchir ensemble. D'abord, le fait que ce soit deux livres qui sont très ancrés, me semble-t-il, dans un contexte politique, social, voire économique. En tout cas, l'idée de placer vos personnages et votre intrigue à l'intérieur d'un contexte extrêmement fort dont on va bien sûr reparler. Un regard porté aussi, me semble-t-il, sur finalement ce qui constitue une époque, les gens qui la fabriquent, les gens qui la subissent d'une certaine façon. La question des générations aussi, qui est quelque chose que vous avez abordé l'un et l'autre aussi au fil de votre travail dans d'autres livres. On parlera aussi bien sûr de la musique, puisque c'est quelque chose qui traverse notamment votre livre, Thomas, et qui est quelque chose que vous avez beaucoup exploré, François. Et puis, bien sûr qu'on parlera d'écriture, parce que ce sont deux livres dont la structure et dont la langue sont extrêmement imbriqués avec le propos et avec la manière dont vous voulez mettre en œuvre ces questionnements-là. Je vais dire un tout petit mot des deux livres pour essayer de poser les enjeux, et puis je vous laisserai bien sûr la parole très très rapidement pour commencer à parler de ces deux livres. François, évidemment, on vous connaît bien ici, écrivain, scénariste, critique, beaucoup de cordes à votre arc, beaucoup de romans publiés, en particulier aux éditions Verticales, depuis Jouer Juste, on se souvient bien sûr d'Entre les Murs. On se souvient bien sûr de La Blessure, La Vraie, qui est un livre pour lequel j'ai énormément d'affection, comme vous le savez. Et puis, on va parler de ce livre-là, En Guerre, qui est un roman donc, qui se passe dans une petite ville de province. Vous nous donnerez peut-être un peu plus de précision quant à la localisation. On pourrait presque dire que le pitch, au début, est une comédie romantique, mais alors ça serait une comédie romantique à la François Bégaudeau, c'est-à-dire deux personnes que tout oppose, se rencontrent. Et puis, c'est là que les problèmes commencent, effectivement, plutôt que d'aller vers une forme de résolution. En tout cas, cette rencontre entre deux personnes que tout oppose se situe dans un moment particulier, qui est le moment post-attentat aussi en France. Et c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup d'importance dans votre livre. Et puis, c'est aussi sur un fond de réalité, de précarité économique, sociale, avec notamment la précarité économique liée à des licenciements massifs qui touche un autre personnage, qui est le personnage de Cristiano, mais dont on va évidemment reparler au fil de cette conversation. Et j'ajouterai au final que c'est quelque part un roman géographique, le roman d'une ville, et peut-être une manière de relire la lutte des classes à travers la cartographie, mais ça, on y reviendra pendant notre conversation. Vous, cher Thomas, vous nous plongez au cœur de l'hiver du mécontentement. On a eu l'habitude avec vous d'être plongé dans des contextes comme ça et dans des lieux très forts, puisqu'il y a eu New York, il y a eu le Japon, il y a eu Détroit dans votre précédent roman. Cette fois-ci, c'est Londres, mais c'est une Londres un petit peu décalée dans le temps, à la fin des années 70, l'hiver 78-79, un hiver de grève, un hiver qui va être aussi un vrai hiver de basculement dans l'histoire anglaise et plus globalement peut-être dans l'histoire européenne. On suit le personnage de Candice, qui est aussi un personnage qui nous rappelle des choses par rapport à des précédents livres. Peut-être on peut commencer justement par là, c'est-à-dire le choix de un contexte comme celui que j'ai évoqué sur les précédents livres, mais quand même une époque avec un petit peu de champ, un petit peu de recul qui vous permet de regarder les choses peut-être avec plus de distance et un regard plus analytique, j'ai envie de dire, même si on est évidemment à l'intérieur d'une œuvre romanesque.
Alors c'est vrai que j'avais pris l'habitude de me déplacer. En même temps, je voulais, enfin, si vous voulez, au bout de quelques romans, je situe l'action d'un des romans au Japon, et puis après à Détroit, et puis après, et je commençais à rencontrer des lecteurs qui me disaient, alors la prochaine fois, vous nous emmenez où ? Ce qui moi me glaçait, c'est-à-dire j'avais l'impression que j'étais en train de devenir un guide Michelin ou un truc. Ça fait peur, c'est-à-dire quand on est artiste, on a envie de continuer à être en mouvement, de continuer à inventer des choses, de continuer à se déplacer, c'est vrai, mais pas toujours d'une façon prévisible. Et du coup, ce ce coup de décalage dans le temps, ça a été aussi ça, une volonté de casser ce truc-là. Et de, alors peut-être d'aller chercher aussi les racines de les racines d'un mal dont les autres romans parlaient, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette année 79, là, qui voit alors qu'il y a une année particulière en Angleterre, on en reparlera, mais qui voit notamment l'élection de Margaret Thatcher, c'est le début d'une ère, comment vous dire, moi, j'étais petit à l'époque, en fait. Moi, je suis né en 74. Donc, j'étais petit. J'ai pas connu l'élection de Margaret Thatcher. J'ai pas, voilà, ça fait pas partie de mon histoire personnelle, quoi. Quand j'ai grandi, quand j'ai ensuite écouté les musiques que l'Angleterre produisait dans ces années-là, j'étais ado et on était déjà dans les années 80. Et pour tout dire, je trouvais ça, pas désagréable, mais assez inintéressant d'être ado dans les années 80. C'est-à-dire, enfin, du point de vue du positionnement historique de ce qui se passait dans le monde autour de moi, j'avais vraiment l'impression qu'il se passait plus rien. On était en pleine guerre froide et tout ce qu'on attendait, c'était notre horizon d'attente, c'était la chute du mur de Berlin qui est arrivée d'ailleurs à la fin des années 80 et qui n'était pas un événement, qui était la fin de tous les événements. C'était, même la guerre froide était enfin éteinte et donc il n'y avait plus qu'à ramasser les cendres. Et donc on me promettait de ne plus jamais rien vivre sur le plan de l'événement historique. Et alors cette période, c'est sans doute terminé avec le 11 septembre 2001. Mais bon, c'est une autre histoire qui commence du coup. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que, à présent que j'ai, disons, la quarantaine, pour me rajeunir encore un peu, je me retourne, et là, en revanche, quand je regarde ces années où j'avais l'impression qu'il ne se passait rien, et où on me disait qu'il ne se passait rien, ben je me dis, ah ben quand même, en fait, on a changé de monde. En fait, ça s'est passé pendant ces années-là. La mondialisation, la financiarisation de l'économie, le changement des règles, il s'est opéré pendant ces années 80. Alors, avec des acteurs de premier plan, genre Margaret Thatcher en Angleterre, qui a fait ce travail-là, et qui l'a fait pour l'Angleterre, et du coup, qui a entraîné l'Europe là-dedans. Et puis Reagan aux États-Unis, et c'était la même période, et ils ont fait le même boulot, c'est-à-dire ce boulot de, qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, et qui est peut-être une des révolutions les plus importantes que l'homme ait connues, parce que ça y est, la planète a enfin été bouclée sur elle-même. En fait, c'est une révolution incroyable, et ça s'est passé en douce. Ça s'est passé alors qu'on nous disait qu'il se passait rien. Donc voilà, donc c'était un peu la volonté de revenir là-dessus, et puis bon, et puis d'autres choses, la publication des discours de Thatcher en français. Chaque fois je dis aux belles lettres, faut que j'arrête de dire aux belles lettres, c'est une maison respectable par ailleurs, mais ils ont eu l'idée de traduire et de publier les discours que Margaret Thatcher prononçait au congrès du Parti conservateur. Donc, ces discours les plus hardcore, des trucs méchants, quoi. Et c'est une idée étrange, quand même, de les publier aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était fini. Comme je vous l'ai dit, j'étais gamin à cette époque-là. Pour moi, Margaret Thatcher, c'était la chanson de Renaud, c'était la Dame de Fer, c'était quelqu'un de pas très sympathique, qui avait poussé l'Europe dans une direction de supermarché économique et pas intéressante. C'était quelqu'un qui disait « I want my money back », tout ça, enfin, qui avait laissé mourir Bobby Sands en prison. C'était tous ces souvenirs-là. Et tout à coup, on traduit ses discours. François Fillon la cite pendant sa campagne comme si c'était voilà, quelqu'un dont on pouvait se réclamer. Alors, j'allais dire, j'ai rien contre François Fillon, c'est un autre problème. Mais je veux dire, c'est incroyable. Moi, je tombais des nues. Je me disais, mais ah merde, en fait, aujourd'hui, on peut citer Margaret Thatcher et dire, bah oui, c'est une espèce de sainte de la religion libérale dans laquelle on vit aujourd'hui. Et finalement, c'est notre ancêtre à tous. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, voilà, donc j'ai commencé à me plonger là-dedans. Et une fois qu'un écrivain commence à se plonger dans un sujet, bah, c'est rare qu'il en sorte pas quelque chose.
Et pas un guide Michelin, en l'occurrence. François, peut-être sur cette question du contexte que j'ai évoqué tout de suite dans l'introduction, le contexte finalement économique, social que je décrivais en introduction pourrait presque être considéré comme l'aboutissement ou une des étapes finalement du changement de monde que vient d'évoquer Thomas Reverdy et qu'il évoque dans ce livre-là. C'était une une des données aussi, le contexte, à la fois je parlais des attentats, mais aussi de cette dureté économique, de cette précarité sociale, qui est aussi un des éléments très très forts du livre.
Non, mais en lisant le bouquin de Thomas, je me disais exactement ça, c'était que, de ce point de vue-là, nos deux livres fonctionnent assez bien, comme si l'un était la matrice de l'autre, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de choses, comme vient de le dire Thomas, se sont inventées dans les années 60-70, je dirais, Thatcher étant à la fois un début et déjà quand même l'aboutissement d'un processus, d'une espèce de casse sociale, pour le dire vite, de grande libération du marché, c'est-à-dire de grande aliénation des employés, qui n'a cessé de déglinguer notamment les classes populaires dans les... Par exemple, dans les pays dits occidentaux depuis 30-40 ans. Donc je pense que là, effectivement... Alors c'est vrai que moi, une de mes ambitions était de faire comme ça, de rendre compte de l'époque contemporaine, les années 2010, on va dire. Mon livre commence en 2015, il se termine en 2017, mais les années 2010, c'est ce qui pose un vrai problème, je dirais presque philosophique ou historiographique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une époque, quoi ? Ça, c'est une question qui m'a toujours beaucoup travaillé. C'est quoi une époque ? Alors précisément... Il y a toujours l'écume d'une époque, et l'écume d'une époque, elle est ramassée, je dirais, par ce qu'on pourrait appeler l'actualité, ce dont les médias font leur beurre tous les jours. Hein. L'actualité, la petite événementialité quotidienne, des petites choses, bon, avec aussi parfois des pics dramatiques, par exemple un attentat terroriste, effectivement. Bon, mais est-ce que c'est ça l'époque ? Est-ce qu'une époque, elle peut être jugée à travers ces petits pics d'actualité qui prennent un peu le dessus, qui sont toujours sur le devant de la scène. Thomas vient de le dire, effectivement, si on regarde ce que nous racontait l'actualité dans les années 80, on a eu à peu près la même adolescence dépressive, hein, je te rassure, par rapport à notre propre époque, les années 80. Ça racontait de façon assez propagandiste d'ailleurs, l'idée que l'histoire était finie, il ne se passait rien, les mouvements sociaux, la fin des idéologies, etc. Bon, et la chronique de l'actualité, elle était alimentée par on ne sait pas trop quoi dans les années 80. Ouais, mais l'époque, c'était quoi ? C'était ce qui était en train de se passer structurellement. Et moi, je pense que le vrai fond d'une époque, c'est ce qui se passe au niveau des structures. Alors, qu'est-ce que c'est que les structures ? C'est par exemple les structures sociales. Et là, oui, bien sûr, ce que raconte Thomas, comment il y a eu une espèce de déflagration structurelle qui s'est opérée autour de ces années-là dans les pays occidentaux. Quoi. Donc moi, alors après, je vois la conséquence 30 ans plus tard.
Précisément cette chose-là, je parlais du tout début du livre tout à l'heure, de cette dimension géographique. Le début du livre est une sorte de travelling, finalement. On a l'impression de voir cette ville de très haut. Et vous décrivez vos personnages, donc le personnage de Romain qui travaille au service culturel de la ville, et puis le personnage de Louisa qui bosse sur un entrepôt d'Amazon. Vous les décrivez comme deux points, comme ça, avec beaucoup de distance d'ailleurs, comme s'il y avait presque un déficit d'incarnation de ces personnages-là, de manière à montrer véritablement la disposition de la ville et la manière dont deux personnages appartenant à deux endroits différents de la société ne sont pas appelés à se rencontrer. Il y avait cette idée justement de la structure, mais presque de la structure aussi sociale et géographique, et cette entrée, c'était ça finalement le...
Absolument, mais sachant que la structure sociale et géographique, elles sont inextricables. Si j'habite tel point, tel quartier de la ville, c'est quand même souvent lié à mon appartenance sociale, à mon niveau de revenu, à tout un tas de choses qui me déterminent comme sujet social. En posant ce que j'appelais pour moi-même une prolétaire comme Louisa et un petit bourgeois comme Romain, immédiatement, la meilleure façon, je dirais, de les caractériser dans un premier temps socialement, c'était d'étudier leur trajectoire dans la ville. C'est-à-dire quels lieux ils fréquentent, quels sont ce que j'appelle les trajectoires préférentielles, que tout le monde pourrait faire d'ailleurs dans la ville qu'il habite. C'est-à-dire que, quelles sont les rues par lesquelles je passe, quels sont les points qui sont des points de rendez-vous assez réguliers dans ma vie. Si je fais après un petit schéma comme ça, un petit peu scientifique sur l'ensemble de mes trajectoires régulières dans la ville, c'est pas les mêmes trajectoires que quelqu'un qui serait d'un niveau social inférieur ou supérieur au mien. Donc ça me paraissait une chose intéressante que de commencer par montrer, d'où la première phrase du livre, que d'une certaine manière, l'appartenance à une ville est très largement une fiction. C'est-à-dire que quand deux personnes disent qu'elles appartiennent à la même ville, d'une certaine manière, elles n'ont encore rien dit. Puisque selon que vous habitez, par exemple, les quartiers nord de ma moyenne ville de province dans laquelle j'ai campé mon récit, les quartiers nord, donc ouvriers, enfin post-ouvriers, post-industriels, avec des tours, et ou que vous habitiez le centre-ville qui est en voie de gentrification, comme on dit, de boboisation, pourrait-on dire, même si j'aime pas beaucoup le mot, ben, vous n'habitez pas la même ville. Vous n'habitez pas la même ville, en fait. Donc, vous pouvez avoir un nom propre en commun, une espèce de, d'étiquetage administratif. On pourrait dire vous habitez tous les deux à Chartres ou à Nevers ou à Beauvais, pour prendre des villes à peu près équivalentes de celles dont je me suis inspiré. Mais il est faux que vous habitez la même ville. Et donc, après, venait mécaniquement ce qui était pour moi à la fois une question de sociologie et aussi une question narrative, une question littéraire. C'est comment pourrait-il être possible que ces deux personnes-là se rencontrent ? Puisque moi, je voulais organiser une relation sexuelo-sentimentale entre deux personnes de milieux sociaux très hétérogènes. Il fallait d'abord que je les fasse se rencontrer. Et pour ça, il a fallu que j'invente des accidents. Puisque si je m'en tenais à la stricte régularité de leur déplacement dans la ville, il était très, très improbable qu'ils se rencontrent.
Peut-être on peut parler de cette dimension de la ville, parce que vous, votre entrée aussi, Thomas, est très liée à cela. Vous mettez ce personnage de Candice tout de suite à l'intérieur de la ville. Alors, je ne sais pas si elle habite la même ville que les autres personnages. Vous pourrez peut-être en dire un mot. Mais il y a cette idée, alors là, pour le coup, non pas à distance, mais presque caméra sur l'épaule. Finalement, on suit ce personnage qui est tout de suite le filtre ou la manière dont on va découvrir aussi à la fois ce lieu, ce contexte dont on a parlé. Et le personnage de Candice, vous le collez dès le début parce qu'il est finalement le guide aussi, quelque part, dans ce contexte-là.
Oui, il est le guide, et puis... Enfin, elle est un guide et elle est un témoin de ce qui est en train de se passer. Et c'est un témoin particulièrement vivant. Enfin, je ne sais pas comment je suis tombé sur cette jeune femme, mais c'est vrai que donc elle est très jeune, elle commence des études, elle voudrait devenir comédienne pour payer ses études d'art dramatique. Il faut qu'elle gagne sa vie un peu pour quitter ses parents aussi, pour vivre toute seule. Donc elle prend un boulot d'une boîte de coursiers à vélo qui est en train de se monter. C'est très à la mode aujourd'hui, les coursiers à vélo. On en voit beaucoup dans les villes. Bon, ça naît dans ces années-là. Et c'est évidemment à la fois un métier qu'on peut faire que quand on est jeune, parce que faut quand même pédaler assez durement. Et puis c'est un métier particulièrement dangereux, précaire, qui nécessite cette espèce d'énergie de la jeunesse et tout ça. Et bien, pour moi, sa caractéristique principale à Candice, c'est ça, c'est cette énergie qui fait que quoi qu'il arrive, puisque en fait elle vit une époque de bouleversement, de et puis aussi d'incertitude, où les choses changent, mais sans doute pas pour du meilleur. Sauf qu'elle a 20 ans et qu'il va bien falloir qu'elle la vive sa vie et qu'elle fasse sa place, quel que soit le monde pourri ou pas qu'on lui donne à habiter. Et donc voilà, de la prendre au début là, dans ce premier chapitre, de la prendre en vélo alors qu'elle est en train de traverser Londres, de filer entre les voitures, etc. C'était pour moi une façon de comme vous dites, de me placer derrière elle, quoi, caméra à l'épaule, et d'essayer de profiter de son aspiration, de profiter de son énergie, de la suivre et de voir ce qui allait bien pouvoir se passer, quoi.
Peut-être on peut évidemment parler tout de suite d'un autre élément qui est vous avez évoqué la volonté de Candice de devenir comédienne. Elle travaille autour d'un texte qui est un texte de Shakespeare, qui est Richard III. Peut-être on peut aussi tout de suite amener cet élément-là dans notre conversation, parce que c'est aussi une des données du livre, c'est-à-dire avoir recours aussi à ce texte-là pour donner une autre dimension au regard porté précisément sur le contexte politique, sur les questions liées au pouvoir. On reparlera d'ailleurs peut-être de pouvoir avec vous, François, mais voilà, peut-être nous dire un mot aussi de cet élément-là qui vient tout de suite percuter la réalité de Londres à la fin des années 70.
Oui, alors, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, quand je me suis intéressé à Thatcher, j'aurais pu en rester là. Enfin, j'aurais pu me mettre à lire David Peace, par exemple, qui écrit des merveilleux polars chez Rivage, qui se passent dans les années Thatcher, et notamment 84, 85, les années où il y a les grèves des mineurs et tout ça. C'est vraiment des romans noirs extrêmement bien faits. Et du coup, si je m'étais intéressé... En fait, j'aurais pas eu besoin d'en écrire un moi-même. Je veux dire, ils sont très bien comme ça. Mais en 79, je suis tombé, cet hiver 78-79, je suis tombé sur un fait qui a immédiatement retenu mon attention et puis qui a transformé le projet. Et c'est que le journal Le Sun, qui est un tabloïd populaire anglais, appelle cet hiver de grève, puisqu'il y a des grosses grèves en Angleterre à ce moment-là, the winter of discontent, c'est-à-dire l'hiver du mécontentement. C'est ce qui donne son titre au roman. Mais en fait, quand je lis ça, immédiatement, ça fait tilt, parce que je sais parce que parce que par hasard, je l'ai lu très peu de temps avant et que je l'ai bien en tête parce que je l'ai lu plusieurs fois, parce que ça m'intéressait. Il se trouve que c'est le premier vers de Richard III, de Shakespeare. Richard III arrive en scène, il est seul et il explique que l'hiver du mécontentement, donc la guerre, est en train de se changer en glorieux été et que bref, lui, il va s'ennuyer et il va falloir qu'il tue un peu tous ses frères et cousins pour accéder au trône, pour remettre un peu d'action dans tout ça, parce que la paix, le bonheur, lui, ça l'embête. Lui, il a toujours été, on l'a toujours regardé comme un tueur, un monstre, un paria, et donc voilà. Et il fait ce monologue en commençant « Now is the winter of a discontent », etc. Et donc, là, ça fait tilt, parce que tout à coup, j'ai pas que Margaret Thatcher, Londres et sa géographie, j'ai pas que ma jeune étudiante qui traverse ça et qui va devoir trouver sa place, vivre avec ses parents, les mecs qu'elle rencontre. Non, j'ai aussi, à travers son implication dans son métier de comédienne, j'ai aussi Shakespeare. J'ai Richard III, qui est la pièce sur la tragédie du pouvoir, avec ce personnage qui est monstrueux, qui finit quand même par faire égorger ses neveux de 8 ans, qui couche avec sa belle-sœur. Enfin, il est terrible. Et donc c'est vraiment la figure shakespearienne du tyran, du tyran implacable, du tyran ambigu aussi, parce que justement, comme il est monstrueux, c'est aussi un paria, c'est quelqu'un qui dérange, c'est aussi un peu un punk à sa manière. Et dans ces années-là, spécialement, on le représente comme ça. Enfin, je veux dire, on fait dire cette tirade de The Winter of Discontent, on l'a fait dire à Johnny Rotten, qui est le chanteur des Sex Pistols, dans un documentaire sur les Sex Pistols de Fist and the Fury. Et donc, c'est incroyable, c'est-à-dire tout à coup, tout ce télescope. Et c'est Shakespeare, en fait, qui me permet finalement. À 4 siècles d'écart de traverser cette année 79, de la relier aussi bien à Shakespeare qu'à aujourd'hui, parce que c'est lui qui apporte toutes ces thématiques autour du pouvoir. Finalement, Richard III ne conquiert que le pouvoir que les autres lui abandonnent, par lâcheté, par peur, par séduction. Il maîtrise la rhétorique, il est très fort, il est drôle, il est bon, et tout ça, ça va, voilà, après ça va informer toute l'histoire, parce que ça crée des échos. Mais c'est au génie de Shakespeare que je les dois, les échos. Ils sont...
Et on reviendra à cela aussi pour Margaret Thatcher. Peut-être, François, on peut... Parce qu'on parlait du pouvoir à l'instant. Est-ce que vous diriez que votre livre est aussi un livre sur la question du pouvoir, ou en tout cas sur les luttes de pouvoir, ou sur les rapports de force qui peuvent exister dans une société? Vous évoquez la volonté que vous avez eue de mettre en place cette histoire sexuelo-sentimentale, si je reprends vos termes.
Oui, je trouve que c'est assez bien dit.
J'hésitais avec
sentimentalo-sexuel.
Il y a une hiérarchie comme ça qui est faite, au moins. Mais peut-être, je pense par exemple à la question du langage, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un truc qui est au cœur justement dans les deux personnalités de Louisa et de Romain. Est-ce qu'au fond, le livre, il parle aussi de ça, oui, je ne sais pas si c'est l'action du pouvoir ou du rapport de force à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une ville?
Je pense que ce qui peut m'intéresser, justement, parler de saisie d'une époque. En fait, il me semble que la vraie question, quand on essaie de se demander qu'est-ce qu'il est en train de se passer à l'échelle d'une société, bon, soyons modestes, disons la France, c'est quelles sont les forces au travail? Qu'est-ce qui agit les gens? Qu'est-ce qui fait que les choses arrivent? C'est ça, en fait, la vraie question. Alors, après, un roman prend ça du côté des personnages. C'est-à-dire, si je prends un personnage comme Louisa, qu'est-ce qui agit en elle, en fait? En postulant le fait qu'on est tous des sujets sociaux, au sens où on est beaucoup plus largement agi socialement qu'on agit soi-même. Alors, elle est agie par quoi? Ben, elle est agie par un certain nombre de rapports de force économique. Ça, c'est la base. Soyons, mais alors vraiment canoniquement marxiste là-dessus. C'est-à-dire que quand Louisa, c'était aussi ça, le sens du titre et de le situer, de situer ce roman précisément sur fond de séquences terroristes, c'est-à-dire que si moi je me demande ce qui agit Louisa tous les jours, quotidiennement, alors ça n'a absolument rien à voir avec la scène terroriste, ce que j'appellerais la séquence terroriste, qui par ailleurs charrie beaucoup de drames, de tragédies et de choses à la fois très spectaculaires et très traumatisantes, mais clairement, ça n'est pas du tout ce qui agit le corps de Louisa. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive dans son quotidien est pas du tout, elle n'est pas altérée ou affectée par cette séquence événementielle-là. Ce qui l'altère et l'affecte profondément, c'est les rapports sociaux dans lesquels elle est prise, c'est-à-dire premièrement, nécessité de gagner sa vie, nécessité de manger, de se vêtir, de se loger. Il se trouve que dans les sociétés dites capitalistes, on peut se loger, se vêtir et manger moyennant argent. Donc il faut gagner de l'argent. Il se trouve que dans les mêmes sociétés capitalistes, peut-être qu'elles seront dépassées un jour, il se trouve que je peux obtenir de l'argent moyennant travail. Donc il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle trouve du travail. Il se trouve que comme elle est partie avec à peu près rien dans sa vie, eh ben, elle va se retrouver sur le marché du travail, ce qu'on appelle d'ailleurs bizarrement le marché du travail. Bon, ben, c'est ça que je décris. C'est-à-dire que vraiment, tout ça a été pour moi un effort de concentration pour me dire, mais en fait, Louisa, ça fonctionne comment? Ça marche comment son truc, quoi? Et alors après, ça serait le rapport de force général dans lequel elle est prise. Elle est agie par ces forces-là qui sont les forces structurelles d'une certaine donnée économique, hein, une certaine distribution des richesses, une certaine administration générale de la cité, bon, qui fait que et Louisa a la vie qu'elle a et c'est quelqu'un qui essaie de subvenir à ses besoins en permanence. Elle ne se pose pas beaucoup d'autres questions que ça. Après, on pourrait aussi parler de rapports de force beaucoup plus micro. Alors ça, c'est là que le roman intervient davantage. Quels sont les rapports de force entre Louisa et Romain, par exemple? Alors, ça dépend des situations. Il arrive que Romain, je crois, soit en position de faiblesse par rapport à Louisa. Ça dépend ce qu'ils font. Peut-être que dans le sexe, il est en position de faiblesse, par exemple. Ça ne me vient que maintenant, mais on pourrait conjecturer de cette façon-là. En revanche, sur certains sujets, et notamment sur l'arme du langage, il est évident que Romain est dominateur. Lui, il maîtrise un peu plus le langage, c'est même son métier, en fait. Il travaille dans la culture, donc bon, il a un rapport fort avec la langue, avec les livres, avec tout ça. Louisa, très très peu. C'est-à-dire qu'elle a, je passe quelques pages à détailler ça, mais elle a un langage qui est presque limité à l'instrumental. Ce qui l'intéresse dans une idée, dans une opinion, c'est pas l'opinion en elle-même, elle s'en fout de défendre des opinions, Louisa. Ce qui l'intéresse, c'est d'émettre des énoncés qui puissent avoir une efficace à l'instant T où ils sont prononcés. Parce qu'elle, elle est toujours obligée. Pour moi, c'est ça un prolétaire. C'est quelqu'un qui, je pense qu'on subit tous la machine sociale. Le prolétaire est celui qui la subit particulièrement plus que les autres, quoi. C'est-à-dire que le prolétaire est constamment requis par la société de se déterminer sur un certain nombre de choses. Il est obligé de prendre des. Il est toujours en mode défensif, en quelque sorte. La société lui impose un certain nombre de situations. Le prolétaire doit réagir. Et donc, il doit être extrêmement pragmatique. Et effectivement, il a peu de temps ou de disponibilité pour s'accorder le luxe d'un langage que Romain maîtrise très bien et qu'il développe avec ses amis dans leur petite sociabilité de petits bourgeois de centre-ville, à savoir un langage qui serait beaucoup plus analytique, beaucoup plus comique aussi, c'est-à-dire qu'on fait un peu des bons mots. Sachant que moi, j'aime bien, il y a des lecteurs de ce livre qui me disent que la bande à Romain, elle est un peu insupportable, etc. Moi, j'aime aussi assez cet usage du langage. Je trouve que c'est un luxe, d'ailleurs, de l'être humain de pouvoir avoir un rapport au langage non instrumental. Un rapport qui serait, je sais pas, pour viser la vérité, ou pour viser le rire, ou pour viser un certain effet. Moi, j'aime bien les deux, en fait. Mais il est évident que sur le langage, Louisa est très en deçà de Romain, clairement.
Est-ce que le personnage de Candice, vous diriez aussi qu'il est à l'intérieur de ce rapport de force, précisément? Parce que c'est aussi, finalement, un moment d'affirmation politique ou de regard porté sur la place qu'on tient à un endroit donné. Est-ce que le personnage de Candice, il a quelque chose de cet ordre-là, d'être aussi en guerre avec le contexte dans lequel elle se trouve, selon vous?
Oui, c'était... Enfin... oui et non. En guerre dans le sens peut-être en révolte ou affirmant ses choix de vie face à ses parents, face à son père, face à sa mère, face à sa sœur qui a reproduit le modèle familial, face à... Bon, et donc, dans la mesure où elle s'affirme, dans la mesure où elle est dans une période compliquée où la jeunesse peut s'affirmer de façon un peu bruyante et violente et tout ça, il y a la musique punk, le truc. Alors du coup, oui, d'accord, elle est peut-être un peu en révolte. Mais non, il y a une grosse différence, c'est que Candice, justement, on parlait de, elle a le soutien du texte, elle a le soutien de Shakespeare, quoi. Et donc de l'art et de toute la culture, et en plus d'une culture que les Anglais sont bien obligés de la leur. Enfin, je veux dire, Shakespeare, voilà, c'est on peut pas le renier. Donc quand Shakespeare critique le pouvoir ou la manière d'asseoir son pouvoir tyrannique ou la façon d'en abuser ou tout ça, bon, même quelqu'un qui aime le pouvoir est bien obligé de reconnaître que Shakespeare a raison. Alors du coup, elle a cette arme-là, vous voyez, c'est-à-dire, elle vient d'un quartier Islington Park, qui est un quartier nord de Camden, qui est un quartier pauvre. En fait, je me suis inspiré pour choisir son quartier, puisque moi, je n'y étais pas quand elle est née, hein, c'est en 1960. Je me suis inspiré de l'autobiographie de Johnny Rotten. En fait, c'est là qu'il grandit, lui. Et c'est là qu'il chope la méningite, dit-il en jouant dans des flaques où pissent les rats. Donc c'est, voilà, on est en plein dans l'Angleterre pauvre des années 60. Là. Et donc effectivement, elle a, du coup, elle est agie par certaines forces sociales. Et ça se voit notamment dans les scènes où elle est en famille et où du coup, il y a cet enjeu de ne pas reproduire ce qu'a fait sa mère, de sortir, d'arriver à s'arracher. Mais du coup, elle arrive à s'arracher, c'est-à-dire là où la Louisa, finalement, même dans son arrachement ou même dans sa liberté ou dans son affirmation, elle reproduit quand même quelque chose où elle est agie, puisqu'en fait, elle rêve d'un pavillon parce qu'elle vient d'une tour et que voilà. Mais finalement, regardée par Romain, ce serait peut-être quand même encore un peu une ambition trop modeste. Enfin, je veux dire, voilà. Alors que la mienne, elle y arrive vraiment. C'est-à-dire, si elle arrive à monter sur les planches et à être éclairée par le projecteur et à dire son texte, alors elle peut le dire devant n'importe qui. Et elle peut le balancer même à la face de Margaret Thatcher. Elle n'a pas peur, parce que Shakespeare, c'est plus fort que toutes les Margaret Thatcher.
Vous évoquiez les scènes en famille. Pardon, François, si vous vouliez dire un mot, non ?
Non, mais j'aime bien cette formule, quoi. Shakespeare, c'est plus fort que Margaret Thatcher. Moi, je pensais l'inverse, mais en fait, t'as raison.
Ouais. Un mot sur ces scènes familiales. Je pense notamment, je crois que c'est à l'occasion d'un repas de Noël où on voit justement Candice dans sa famille. Je parlais des générations aussi en introduction. Il y a quelque chose qu'on sent, même au tout début, lorsque vous décrivez les grèves, il y a une phrase à un moment donné où vous dites « on commençait à voir que les vieux avaient peur ». Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'âge, ou en tout cas d'une confrontation de génération à l'intérieur de cette métamorphose comme ça de la société. C'est quelque chose qui apparaît de manière très forte dans la manière dont vous décrivez Candice, y compris d'ailleurs dans son rapport aux parents, ouais, à la famille.
Ah ouais, alors je saurais pas trop le théoriser, hein. Enfin, je veux dire, je suis pas géographe ou démographe ou je sais pas comment on dit, mais effectivement, il y a quelque chose qui se joue dans disons le passage d'une société plus ou moins traditionnelle où on fait la même chose que son père et tout ça à quelque chose de beaucoup plus moderne. Ou par exemple, dans les années 60, eh ben, effectivement, les jeunes ils commencent à faire des études, ils ont accès à la culture parce qu'il y a le livre de poche, il y a la télévision, on passe des pièces de Shakespeare à la BBC. Enfin, je veux dire, en fait, il se passe quelque chose quand même qui rend les lignes. Alors, c'est curieux, aujourd'hui, en France, on dit ah, l'ascenseur social est en panne et tout ça, et c'est vrai. Hein. Mais sauf qu'on le dit avec d'autant plus d'aigreur qu'on a cru que ça pouvait marcher, que ça pouvait être plus souple que ça, quoi. Et c'était dans ces années-là, dans ces années 70. Je crois que dans nos deux romans, il y a aussi, là, on parle des personnages qui sont les plus forts et les plus visibles. Dans les deux cas, il y a des victimes de ce système-là. Il y a le Cristiano, il y a Jones, qui sont les deux, finalement, c'est marrant, les deux maris, enfin, les deux, je veux dire, les deux compagnons de ces femmes fortes, en quelque sorte. Hein. Et qui, eux, se prennent l'époque comme un mur, quoi. Et qui essayent, y compris de s'opposer, mais qui, alors, du coup, eux, sont pris dans un rapport de classe broyant, quoi, et qui les laisse sur le carreau. Ouais. Ouais, ouais.
Le personnage de Cristiano, c'était justement ça, François, cette dureté aussi. C'est le licenciement, c'est après une période de dépression assez, assez forte, et c'est quelque chose qui est aussi ancré dans une dureté quotidienne par rapport à son existence, sa respectabilité, sa place dans la société.
Mais je pense que cette figure-là est devenue presque un archétype dans le cinéma, dans la littérature. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire que parce que c'est devenu un archétype social tout court. C'est-à-dire que l'art n'a fait que ramasser cet archétype-là. C'est-à-dire que parfois on reproche à des œuvres de fiction justement d'aller un peu trop dans l'archétype. On va dire, ouais, ton personnage il est un peu archétypique. La seule question c'est de savoir si la vie contient des archétypes. Bon, et alors l'ouvrier qui est entré à l'usine à 15 ans, comme c'est le cas de Christiane, ou à 18, en tout cas, toujours été un peu dans ces eaux-là, qui n'a connu qu'un poste, qui a une formation d'ailleurs pour ça, dans une usine de connecteurs électroniques pour l'automobile, etc. Et qui s'en fait virer à 40 ans pour évidemment une délocalisation, qui s'est décidé évidemment très très loin du côté des actionnaires majoritaires qui se trouvent quelque part entre Chine, Australie et États-Unis. C'est incroyable, enfin, c'est une scène absolument répétitive depuis 50 ans sur la scène industrielle, économique et tout ça. Donc, des ouvriers sur le carreau, on en a vu plein. Des ouvriers que moi j'appelle un peu du XXe siècle, quoi, qui seraient dans un certain modèle économique ou dans un certain attachement à leur métier ou en tout cas attachement à une certaine formation, à un lieu de travail aussi bien précis qui s'appelle une usine, où on peut développer une sorte de camaraderie. Bon, d'ailleurs, il ne faut pas exagérer trop sur la, comment dire, l'embellissement rétroactif de la vie à l'usine à partir du moment où on l'a perdue. La vie à l'usine, c'est dégueulasse. C'est encore, hein, bien sûr, il y a encore énormément d'ouvriers, quoi qu'on dise. C'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est éreintant. D'ailleurs, c'est ce que Louisa va dire à Cristiano quand Cristiano se plaindra un peu trop et surfantasmera sur le boulot qu'il a perdu. Louisa lui rappellera qu'elle est toujours très pragmatique. Tu veux que je te rappelle toutes les soirs où tu rentrais et que tu te plaignais du dos et des pieds et tout ça, et ton patron et ton petit chef et des conditions dégueulasses qui vous étaient faites. Bon. Donc il ne faut absolument pas réinventer rétroactivement ce qu'a été la vie à l'usine à partir du moment où on a perdu ce bien-là. Mais oui, Cristiano le vit comme tel, quoi. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je vais un peu vite au début sur ce scénario qu'on a hélas trop vu déjà au cinéma ou en littérature. Délocalisation, des ouvriers sont plantés comme des chiens, on leur propose évidemment un plan de sauvegarde de l'emploi, un certain nombre d'indemnités qui sont des attrape-couillons, on essaie de les diviser, enfin tout ça a été très très documenté. Donc moi je passe un peu vite là-dessus, parce que ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce que fait Cristiano, voilà, le jour il rentre chez lui et c'est fini, ça y est, l'usine c'est fini, ils se sont battus, il y a eu quelques bastons avec les CRS, qui se sont évidemment terminés par leur échec, parce que dans ces affaires-là, c'est quand même un peu toujours les mêmes qui gagnent, et ça, c'est pas un cliché, c'est un fait objectif. Moi, c'est Cristiano à la maison qui m'intéresse. Et là, ça devient de la psychosociologie. C'est-à-dire comment ce corps-là, habitué à agir, à travailler avec ses mains, ayant une certaine fierté de son travail, qui est pour moi une fierté ambivalente, mais une fierté quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il est condamné à l'inactivité, et surtout, comment est-ce qu'il encaisse le coup des petits boulots qu'on va lui proposer, qui sont des boulots post-industriels. Par exemple, vigile ici, par exemple, d'accompagner un huissier qui va faire son travail un peu, pas très très reluisant, mais néanmoins nécessaire, du point de vue de la loi en tout cas, d'aller choper des gens chez eux et de les exproprier, enfin en tout cas de les déloger ou de leur prendre leurs meubles, ben, y a des gens qui sont payés à la mission comme ça pour accompagner Lucie en question au cas où il y aurait de la baston, parce que Cristiano est un peu mastoc. Bon, c'est le genre de petit boulot qu'on lui propose, et le corps de Cristiano ne va pas vouloir de ces petits boulots-là. Et si vous ne les acceptez pas, ces boulots-là, alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chômeur, vous avez un peu d'indemnité pour tenir un peu, mais vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous êtes foutu moralement, vous êtes... Bon, alors là, c'est là que je raconte un homme dévasté et qui va aller même au, disons, à un point extrême de dévastation.
Et ce livre-là et l'ensemble des personnages, d'ailleurs, tout à l'heure, Thomas disait que d'une certaine manière, Louisa était assignée à résidence. C'est le cas dans ce livre et c'est le cas de tous les personnages. C'est un livre extrêmement désenchanté. Vous diriez cela?
Bon, pour être désenchanté, il faut avoir été enchanté. Donc, je veux dire, j'ai jamais été très enchanté, moi. Je suis extrêmement enchanté tout seul dans ma tête. Mais dans le diagnostic social que j'ai pu faire très tôt, d'ailleurs, parce qu'effectivement, pour avoir grandi dans les années 80, ou en gros, comment vouliez-vous qu'on soit enchanté et qu'ensuite on désenchante, dans la mesure où précisément grandir dans les années 80 et par exemple avoir une petite appétence pour les idées révolutionnaires ou anarchisantes, ou en tout cas radicales de gauche, ça signifiait quand même s'entendre dire en permanence que ces idées étaient finies. Donc nous sommes nés désenchantés. Donc j'ai jamais été désenchanté, puisque je suis né désenchanté. Ce qui peut rendre d'ailleurs assez joyeux, fondamentalement. Quand on part de si bas, il ne peut rien vous arriver, quoi. Donc après, la question se pose, elle est de deux ordres pour moi, sur le constat que je fais dans le livre. Enfin, en tout cas, l'embrigadement social dans lequel j'ai tendance à mettre mes personnages est pratiquement jusqu'au bout. C'est un choix, c'est un double choix, enfin en tout cas c'est un choix qui a été porté par deux critères dans ma réflexion pour l'écrire. D'abord c'est un choix sur le constat, c'est-à-dire qu'objectivement, si je rencontrais une Louisa dans la vraie vie, est-ce que véritablement il y aurait un moment dans sa vie quelque chose de l'ordre de l'émancipation sociale? Je crois que statistiquement, non. Bon, alors voilà, donc après on n'est pas obligé d'écrire selon la statistique, et c'est là qu'intervient le deuxième critère. Parce que j'aurais pu inventer, je le fais d'ailleurs un tout petit peu dans une pirouette finale, mais... J'aurais pu inventer à Louisa un destin d'émancipation. C'est tout à fait possible de le faire. La fiction, ça n'engage à rien. Vous voyez, vous pouvez très bien raconter que Louisa devient Brigitte Macron. Bon, ce n'est pas forcément un sort extrêmement désirable, mais je le prenais comme une ascension sociale, en tout cas. Maison du Touquet, enfin, quand même, pas mal, quoi. Après, il faut supporter son mari. C'est un écueil. Donc, j'aurais pu faire ça. J'ai choisi de ne pas le faire. Alors là, en prenant la mesure d'un contexte général des discours et peut-être aussi d'un contexte général de la fiction littéraire, hein, tel que je peux l'appréhender, parce que je lis beaucoup de mes pairs, mes semblables, Et je constate quand même un scénario qui est assez dominant en ce moment dans des fictions qui frayent avec la question sociale. C'est quand même toujours de ménager un final où, en fait, tout ce qu'on a disposé pendant 200 pages, à savoir que vraiment les classes sociales, c'est très impérieux, l'appartenance de classe, c'est impérieux, ça nous tient. Finalement, tout ça est relativement dissous dans 100 dernières pages qui font que finalement, tout le monde peut rencontrer tout le monde, que c'est vrai qu'un prolo, il a quand même un gros passif social, mais finalement, il peut s'en sortir avec un peu de volonté, un peu de culture, un peu de je sais pas quoi, un peu de bol aussi. Donc, dans ce contexte général où je trouvais que finalement, on minorait la détermination de classe, moi, pour ce livre-là, je ne dis pas que ce sera la même chose dans le prochain, j'avais envie de mettre le balancier de l'autre côté, c'est-à-dire de dire non, mais ne sous-estimons pas la détermination, et donc jusqu'au bout, effectivement, on peut dire que ni Romain, ni Cristiano, a fortiori Cristiano, et ni vraiment Louisa ne sortent de l'ornière sociale dans laquelle ils sont.
Thomas, peut-être sur cette question-là de l'émancipation, le personnage de Candice, c'est aussi une sorte de personnage qui est en formation ou qui est... Il y a quelque chose presque du roman initiatique au fil du livre, finalement, autour de ce personnage. Est-ce que vous l'avez aussi construit comme ça, et est-ce que vous l'avez disposé par rapport à d'autres personnages de cette manière-là pour lui donner cette identité-là? Je pense notamment au personnage de sa sœur qui a un comportement très différent du sien. Comment est-ce que vous l'avez envisagé à l'intérieur de cette confrontation-là, de cette confrontation sociale?
Bon, pour elle, le sujet était moins social que politique, je dirais, vraiment sur le rapport de pouvoir. Et donc, même dans sa famille, elle voit les choses un peu comme ça, de l'emprise que son père a sur la famille, de sa mère, qui est finalement pas libre d'avoir choisi sa vie, sa sœur, qui a reproduit le schéma sans trop se poser de questions, mais avait-elle le choix ? Mais tout ça se pose à chaque fois avec des rapports de pouvoir dans le couple, ou dans la famille, ou dans le boulot, ou vis-à-vis des petits amis. Et avec cette idée quand même, alors moi, peut-être je suis un peu plus optimiste quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de je ne la suis pas jusqu'au bout en me disant qu'elle va s'en sortir, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, effectivement. Mais un peu plus optimiste dans le sens où je pense vraiment... Alors, c'est peut-être aussi le personnage de Richard III, justement. Dans le fond, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait comme erreur. Parce qu'à la fin, il meurt quand même, Richard, alors qu'il a tué quasiment tout le monde. Et dans la dernière scène, vous savez, c'est la scène célèbre où il dit, où il est prêt à donner tout son royaume qu'il a usurpé pour un cheval, pour remonter à cheval, parce qu'on a abattu son cheval et il est tout seul comme un couillon en armure de 72 kilos sur le champ de bataille. Bon, ça y est, il a perdu, quoi. Et qui a gagné? Les fantômes de tous ses ennemis qu'il a oppressés, terrorisés, assassinés, etc., qui sont revenus le voir pendant la nuit et qui l'ont empêché de dormir et qui lui ont dit « Demain, dans la bataille, pense à moi, désespère et meurs. » Et finalement, quelle est l'erreur de Richard? Il a été un peu trop loin. Il aurait pu conquérir le pouvoir, se contenter de la séduction, de l'entreprise de communication, de la bonne campagne. Mais non, il a fallu qu'il les écrase. Il a fallu qu'une fois devenu fort, il se paye le luxe de mépriser les faibles et de les écraser. Et ça, en fait, c'est moralement inacceptable, mais en plus, c'est bête. C'est une erreur à chaque fois que nos puissants se croient au-dessus. Et à chaque fois, Benalla va le payer, là, j'espère. À chaque fois que les gens croient que leur position leur donne le droit de donner des coups de matraque aux gens qui sont en dessous. Et en fait, c'est une erreur. On l'apprend aux enfants quand on leur fait le chêne et le roseau. Hein ? Le chêne, il se croit grand et fort. Et à la fin, c'est lui qui se fait déraciner. Parce que c'est profondément moral et c'est profondément vrai. Richard III meurt à cause de cette arrogance que donne le pouvoir. Et donc, voilà, c'est peut-être mon côté optimiste, ou moraliste, ou optimiste, ou les moralistes, finalement, c'est peut-être c'est des désespérés, mais qui finissent par être un peu optimistes quand même. C'est-à-dire que je crois quand même que, en fait, cette attitude vis-à-vis du pouvoir, d'écraser les faibles, etc., c'est fondamentalement une grossière erreur. C'est bête, c'est méchant, et en fait, ça ne mène qu'à la ruine.
Vous avez beaucoup parlé des... Donc le temps passe, je vais vous donner la parole après. Peut-être un petit mot quand même, vous avez parlé des Sex Pistols tout à l'heure. Il faut quand même qu'on parle de ça aussi, de cet environnement musical et de la manière dont ils structurent à la fois la langue, le récit et évidemment l'époque. François parlait de l'époque tout à l'heure et on a déjà ensemble parlé nombreuses fois de la question de la musique, la place de la musique dans une époque. Comment est-ce qu'elle fait son époque? Comment est-ce qu'elle en est le fruit quelque part? C'était une donnée qui était aussi une donnée indispensable pour vous dans la manière dont vous avez... même construit le roman d'un point de vue narratif, d'un point de vue de la langue et de l'écriture?
Non, en fait, non, pas tout à fait. La musique, pour moi, au départ, c'était presque une documentation. C'est-à-dire, c'était une façon pour moi, pendant l'écriture du roman, pendant un an et demi, de vivre en permanence avec, dans le casque, que des chansons tirées d'albums pressés en Angleterre en 1979. Ah, j'avais rempli mon baladeur avec ça, mon téléphone avec ça, et je n'écoutais que ça. Et c'était une façon pour moi d'y être, parce qu'en fait, c'est un son très clair, un peu aigu, agressif, rapide, et dès les premières notes, on y est, quoi. Ça y est, on est à Londres en 79, il n'y a aucun doute. Et donc, c'était une façon de me plonger là-dedans. Mais évidemment qu'une fois que j'écoute plus que du punk toute la journée, je me mets à porter des badges idiots, je reprends mes Converse, je me mets à faire du vélo parce que Candice est en vélo. Enfin, je veux dire, en fait ça travaille quand même quand on travaille. Et donc sans doute après, du coup, parce que c'est une jeune femme dynamique, parce qu'elle écoute cette musique et que moi je suis en train de l'écouter aussi, du coup les phrases deviennent plus nerveuses, les chapitres raccourcissent, le truc. J'ai envie d'aller aussi vite. J'ai envie de la rattraper, quoi, en fait.
François, encore peut-être une ou deux petites choses qu'on a pas abordées, puis ensuite je donne la parole au public. Y a une chose dans ce livre, c'est que vous regardez finalement les différentes strates de la société ou les différentes appartenances sociales avec un œil quand même très, très acéré, et notamment pour ce qui est de Romain, de tout ce qui est autour de la question culturelle, précisément. C'est quelqu'un qui travaille autour de cette dimension-là, avec quand même la certitude que ça peut servir à quelque chose à un moment donné. Et c'est vrai que vous mettez en scène des personnages, des écrivains, des intellectuels, des rencontres qui sont la plupart du temps extrêmement vaines, inadaptées pour régler le moindre début de commencement du problème qui se pose dans la réalité. Et je viens vous chercher sur un sujet qui nous occupe tous.
Mais venez me chercher et vous allez me trouver.
Ben ça y est, je vous attends.
Je pense que j'avais un petit peu fait le tour du propriétaire dans un roman qui s'appelle La Politesse il y a 3-4 ans, donc sur ces questions-là. Voilà. Mais là, donc, c'est à la marge quand même. Hein. Dans Guerre, je m'occupe quand même beaucoup de ma Louisa, de mon Cristiano, de mon Romain. Mais c'est vrai que Romain nous emmène là, puisqu'il est fonctionnaire territorial et spécialisé dans les affaires culturelles. Donc oui, il fait des projets d'écloisonnement et vivre ensemble, ce genre de trucs. Bon, là, je me moque un peu de cette langue... qui s'est beaucoup développée, parce que elle est comme toute langue administrative, elle a sa drôlerie interne, quoi. Bon, et le vivre ensemble, faire société, faire ville, à un moment faire est devenu, vous savez, faire des trucs, comment dire, sans article, quoi. Faire société, faire ville, ce qui est bon, c'est étrange cette langue. Mais bon, alors moi j'aime bien me moquer gentiment de ça. La question qui se pose, c'est... Je pense que Romain n'est pas dupe, en fait. Hein. À aucun moment, d'ailleurs, je le peins en quelqu'un qui espérerait beaucoup de ce genre de rencontre. Mais est-ce que d'être absolument persuadé que l'horizon social n'est pas dans l'organisation en banlieue, par exemple, de rencontres culturelles, faire venir les livres dans les banlieues ou dans les quartiers populaires ou dans les quartiers relégués? Est-ce que, pour moi, la conviction très profonde que, clairement, ce n'est pas ça qui va libérer l'affaire, ce n'est pas ça qui va, d'un seul coup, émanciper massivement le prolétariat d'un pays donné? Mais ce n'est pas parce que c'est inutile de ce point de vue-là que c'est inintéressant. Genre que si on se mettait tous en position, mais est-ce que c'est intéressant ce qu'on se dit là, dans ce genre de rencontre, où qu'elle ait lieu d'ailleurs, dans les quartiers plus ou moins défavorisés, plus ou moins... moi, c'est toujours un peu comme ça que j'ai pris ces rencontres-là. Essayons d'y faire du bon boulot, essayons de parler bien, essayons de dire des trucs, essayons de réfléchir. Si on est 3, eh ben, on sera 3. Si on est 32, ben, on sera 32. Puis si on est 120, tant mieux, ben, etc. Mais alors, en revanche, effectivement, tout le... où je serais plus conflictuel ou plus dans un débat plus houleux, c'est quand je croise quelqu'un qui pense vraiment que c'est ça, la pierre de salut. Alors là, je peux me mettre en colère parce que d'une part, ça me paraît une illusion. Et d'autre part, je crois que vraiment, et je le dis avec toute l'amitié que je peux avoir pour ces dispositifs-là, j'y participe beaucoup moi-même, je crois que quand même, on peut dire que du point de vue de la structure, du point de vue de la décision générale, étatique, une certaine administration générale de la société, il est évident que les politiques culturelles à connotation sociale ont très largement eu pour, sinon conséquence, mais peut-être aussi vocation, d'exonérer ou de dédouaner les pouvoirs publics d'une vraie politique sociale. Cette phrase était un peu longue et tarabiscotée, mais je pense que j'ai fini par réussir ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est là que ça devient quand même... C'est là qu'on pourrait avoir un débat, quoi. C'est-à-dire, il est évident qu'à un moment... Alors, c'est souvent ce qu'on associe à la démission d'une certaine gauche par rapport à la question sociale. Bon, il y aurait mille choses à dire là-dessus. Parce que ça se passe à peu près dans les mêmes années qu'a raconté Thomas. Hein. On sait bien que c'est dans les années 80 qu'il y a comme ça une espèce de glissement d'une certaine gauche. Bon, je passe. Mais il est évident qu'à partir du moment où on renonçait à véritablement changer les choses socialement et directement, c'est-à-dire réorganiser les rapports sociaux en faveur des plus faibles, émergeait une espèce d'hypertrophie culturelle et notamment effectivement de la demande sociale de la culture. Donc bon, pour résumer, petit A, il faut continuer à faire ces trucs-là et il faut le faire de bon cœur et joyeusement. Petit B, il ne faut pas être dupe de la fonction qu'ils ont, disons, dans le compte général de la situation.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez la dent dure pour l'ensemble de vos personnages. Vous êtes très méchant dans ce livre.
Mais je suis très méchant tout court.
Plus méchant que désenchanté, donc.
Ouais, je suis hyper méchant. Enfin, j'ai encore... j'ai torturé un chat, par exemple, ce matin. Mais... Voilà. Non, je crois, honnêtement, je ne pense pas. En fait, je pense qu'il y a une ironie, je dirais, il y a un tapis ironique pratiquement pendant tout le livre, mais ce que j'appellerais quand même une douce ironie, c'est-à-dire pour moi, l'ironie, c'est quand les choses elles-mêmes portent leur propre ironie. Et je pense qu'il y a toujours un point d'ironie de toute situation, même les plus dramatiques. Donc j'essaie toujours de me nicher là, quoi. Là où une situation tremble un peu, et effectivement, quelque chose de l'ordre de l'ironie arrive. Mais non, je dirais vraiment, les personnages, tous, autant les uns que les autres, la question de savoir si je les aime ou pas est très secondaire pour moi par rapport à la question de savoir si je suis juste avec eux ou pas. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vraiment... Et pour moi, faire l'effort d'accompagner des personnages comme ça pendant 300 pages, c'est l'amour dont est capable un romancier. Alors, c'est peut-être un amour limité. Peut-être que ce n'est pas un amour extrêmement passionnel et digne d'estime. Mais c'est ma façon à moi d'aimer les personnages. C'est d'essayer d'être avec eux et d'essayer toujours de me demander, tiens, mais dans cette situation, ils penseraient quoi, ils feraient quoi, ils diraient quoi. Et moi, j'aime bien Romain. J'aime particulièrement Louisa, c'est vrai. Je pense que ça se sent. Je crois que j'aime bien cette créature à tous égards. Je crois que j'aime bien Cristiano. Enfin, je crois qu'il y a une certaine empathie, pour utiliser un mot un peu trop fréquent en ce moment. Donc, là, je pense... Voilà, je finis là-dessus, je te promets, mais... Il y a un personnage sur lequel, vraiment, écrivant la scène, je me disais, t'as la dent dure et t'assumes parce que vraiment elle le mérite, c'est la directrice de ressources humaines qui s'appelle Catherine Tendron. Là, effectivement, je n'ai pas d'amour pour elle.
Catherine Tendron. comment on fait pour aimer Miss Maggie, Thomas ? Est-ce que, ou en tout cas pour être juste, c'est un enjeu particulier en tant que romancier ?
Physiquement, déjà, elle est bien.
Pas mal. Elle a encore un fil Twitter. Ouais. Il y a un mec qui tweet des citations de Maggie toute la journée.
Et c'est toi.
Non, c'est pas moi. Et non, elle est. Elle est quand même. Elle a des côtés fascinants, hein, parce que. Alors, je ne vais pas répéter. Une fois, j'ai dit qu'elle avait même un petit côté punk. J'ai vraiment exagéré. Mais elle fait. Elle est la première à faire appel à une agence de communication, une agence de publicitaire qui est internationale. Quoi. Satchi & Satchi, c'est des gros, gros publicistes. Et ils lui font une campagne incroyable. Elle est drôle. Elle a des bons mots. Elle est d'un... Alors, évidemment, c'est un humour particulièrement cynique, parce que nous, on a le recul, du coup, maintenant. Donc, en fait, quand elle dit un truc en 79, nous, on sait ce que ça a donné ensuite. Mais en fait, elle est capable d'être drôle. Et moi, surtout, c'était un langage. C'est-à-dire, c'était ses discours, ses interviews. C'est-à-dire, je prenais des citations, je les décontextualisais complètement, je les mettais sur mon mur, tout ça. Et en fait, après, puisqu'elle l'avait dit, j'avais le droit de m'en servir. Donc, à chaque fois que je la fais apparaître et parler, elle parle avec des vrais mots qu'a vraiment prononcé Margaret Thatcher. Mais elle dit des trucs épouvantables. Elle dit, par exemple, elle est première ministre, hein, donc elle est censée s'occuper de sa société, là. Et elle dit, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société, il n'y a que des gens et des familles, et les gens font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ils traversent la rue, par exemple, hein, pourrait dire l'autre. Et c'est incroyable. Elle est première ministre, elle dit, il n'y a pas de société, mais alors qu'il faut faire un autre boulot. Enfin, elle dit des trucs très, très, très violents, en fait. Et très violents, mais qui sont devenus un peu... Enfin, je veux dire, moi, j'ai entendu à la radio, tiens, je vous raconte ça, cet été, un type, complètement débile, je le dis en marmonnant, comme ça, je dirais que je ne l'ai pas dit, qui dit... les gens pauvres, là, qui ne s'en sortent pas, non, mais il faut qu'ils imaginent une nouvelle économie, moyen de... Tout le monde a quelque chose à valoriser, tout ça. Vous avez eu un enfant, il a un peu grandi. Louez la poussette en attendant de faire le deuxième. Les bras vous en tombent. Et
alors qu'il suffirait de louer l'enfant.
Non, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Ça rapporterait beaucoup plus. C'est vraiment bon. Et alors, je cherche sur Internet qui est ce type qui dit des trucs affreux. Figurez-vous, c'est le préfacier des discours de Margaret Thatcher aux belles lettres. Et ouais. C'est incroyable.
Moi, je trouve qu'elle est... En lisant ton livre donc, et redécouvrant sa langue, parce que tu la cites pas mal, par admiration, je pense. Non, je me disais, elle est très pratique. Thatcher, c'est très intéressant. Je veux dire, vraiment, je crois que c'est pas qu'elle... En fait, je pense que Thatcher dit clairement et explicitement ce qui est le fond de la pensée de pas mal de nos gouvernants. Enfin, je pense que nos gouvernants actuels, vous enlevez un petit peu une petite couche de bienveillance, un petit truc de vivre ensemble par-ci, toute la petite graisse comme ça dont ils entourent leur discours... Je crois que le fond de leur pensée, c'est Thatcher. Et donc pour ça, merci pour elle. Merci à elle, je veux dire. Non, mais je veux dire, elle a au moins le mérite de la frontalité, quoi.
Oui, tout à fait. Et elle le fait dans une optique de combat, parce qu'elle est résolument anticommuniste. Et donc c'est son credo. Et elle martèle sa doxa libérale, parce que pour elle, c'est une arme, c'est une façon de lutter contre le communisme. Donc voilà, autre époque, tout ça. Mais sauf que comme elle a gagné, du coup, nous, aujourd'hui, son discours de combat est devenu une vérité d'évidence. Quoi. Tout le monde pense qu'on vit dans un marché, que tout est marché, que nous sommes des marchandises, que même pour trouver son compagnon, maintenant, c'est le marché de la relation sexuelo-sentimentale.
Il y a un petit abécédaire qui résume l'action de Margaret Thatcher. Je vais lire la dernière occurrence. Z comme zéro. C'est le nombre d'emplois créés par la politique économique de Thatcher qui a redressé l'Angleterre. Elle avait pourtant prévenu, dans un de ses premiers discours de Premier ministre à la conférence du Parti conservateur, elle annonçait la couleur « Aujourd'hui, fini de rêver ». Il n'y a pas d'alternative, rajoute Thomas Béroverdi, où on voit aussi la dimension ironique et drôle de ce livre. Merci à tous les deux, je vais donner la parole au public. Si vous souhaitez intervenir, on va vous passer un micro. Madame, c'est levé d'un pas assuré. Si vous voulez bien lever la main pour qu'on vous donne le micro, s'il vous plaît.
C'est une fan de Thatcher, je crois.
Allez-y.
Complètement l'inverse. Je m'adresse à Thomas. Où je ne sais pas si dans votre ouvrage, vous précisez ce que veut dire la musique punk de l'époque. C'était pas que des gens avec des crêtes qui foutaient la merde, entre parenthèses, parce que je l'ai vécu moi-même à Londres, exactement, j'y suis allée exprès. Les No Futures, les punks, c'était No Futures, ça voulait... C'est pour dire que la musique est un message aussi, dont les personnes plus âgées disent « Ouais, ça crie, ça gueule, non, ça veut dire quelque chose ». Est-ce que vous en parlez dans votre livre, de cette explication au travers du cinéma? Vous parlez des Sex Pistols très peu. Et Orange Mécanique, moi j'ai vécu... Ça parlait, quoi. C'était revendiquer quelque chose. Est-ce que vous le dans votre livre,
tout à fait.
Vous parlez de ça parce que les personnes âgées disent le rock, le punk, c'est pas pour nous, mais c'est pour leur dire que les jeunes s'expriment comme aujourd'hui pour le rap, s'expriment à l'époque, c'était le punk. Et c'est hyper important, quoi, que les personnes âgées comprennent que les jeunes s'expriment comme ils peuvent.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un moment où, notamment, on a Candice, elle est seule chez elle, elle monte le son, les voisins tapent à et elle s'en fout, elle monte le son. Vas-y, c'est son silence à elle, c'est sa façon de... Voilà. Et c'est vrai que cette pop culture, alors que ça soit le rock ou le punk, ou quelle que soit la génération et du coup le courant musical et tout ça, le rap aujourd'hui, c'est pour elle, en tout cas, pour le personnage, là, ça donne, disons, des modèles de stars. Ça permet des gens comme les chanteurs des Rolling Stones là finissent, pas lui mais McCartney, il est Lord, enfin il est anobli par la reine, et ça veut dire que la pop culture elle donne naissance à des stars qui viennent de la working class, qui viennent des prolétaires et qui autorisent par leur musique, là encore par l'art en fait, une espèce d'émancipation, alors même si elle est imaginaire, même si elle est rêvée, même si elle est... Mais ça veut dire qu'un jeune peut se faire une décolo, se couper les cheveux comme il veut et s'habiller d'une façon différente de ses parents. Il a, en quelque sorte, l'autorisation de la rockstar qui, elle, parce qu'elle a réussi grâce à son art, est bien obligée d'être considérée par les gens installés comme leur égal. Donc ça, c'est toujours intéressant dans ces mouvements-là, ouais, bien sûr.
Merci madame. Monsieur.
Oui, d'après ce que j'ai entendu, vous faites un superbe constat tous les deux. Et ce que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il y a une place pour une issue à partir de ce constat ?
Vous avez 2 heures.
Bon, je répondrai en 3 parties. grand A... en fait, non, mais je pense que là-dessus, vous nous mettez dans une position où on ne serait presque pas fondé à répondre, parce que, ou alors, nous deux, pas plus que vous, pas plus que quiconque ici. C'est-à-dire, y a-t-il une issue dans cette affaire-là ? Est-ce qu'une émancipation massive est possible ? Est-ce que une reconfiguration générale des rapports sociaux est possible ? Je le dis dans mes mots à moi, mais on pourrait le dire de plein d'autres manières. Je n'en sais rien. Et de toute façon, les faits... Se chargeront de nous dire ce qu'il en est. Ce que je pourrais dire juste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de fonction de la littérature et donc il n'y a pas de non-fonction de la littérature, mais effectivement, je ne suis pas convaincu que la littérature soit exactement chez elle quand elle fait des prospectives sur ce qui pourrait arriver. Évidemment, elle a pu le faire, elle pourra le faire et ça peut donner des très bons livres, mais je pense que si déjà un livre arrive à capter quelque chose de son temps, par exemple, si c'est ou alors d'un autre temps, comme par exemple la fin des années 70 en Angleterre, qui fait beaucoup d'écho avec le nôtre. Bon, je pense que déjà, il a fait un travail qui n'est pas dégueulasse, parce que le reste, j'ai dire que l'anticipation sur les possibilités politiques réelles, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt l'affaire des gens et non pas l'affaire de la littérature. Quoi. Ce serait plutôt à nous autres, tous autant qu'on est, d'inventer un destin politique différent de celui auquel on semble condamné par les faits.
Et puis parce que ce qui se passe dans la littérature, nous on a des personnages, alors on suit malgré tout des destins individuels. Et puis de l'autre côté, le lecteur, c'est pareil, il le reçoit, ça résonne avec des choses, des sentiments qu'il a lui ou des choses qu'il a dans son expérience. Donc tout ça reste quand même très intime et très. Et donc je suis pas sûr que ça soit politique au sens qu'il y ait une solution politique à chercher dans les romans, effectivement, ce que dit François. Mais individuellement, si un jour une jeune fille brandit mon livre en expliquant à ses parents qu'elle en a rien à foutre d'HEC, elle va faire du théâtre parce que c'est super, voilà, très bien.
On vous enverra ses parents. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
je m'adresse à M. Bégaudeau. Non, je voudrais simplement un éclaircissement sur son roman. Je voudrais qu'il commente un petit peu le passage où raconte la conversion du capitaliste qui m'a laissé un peu dubitatif.
Bah, je crois que dans ces pages-là qui sont vers la fin, je me cache pas d'être dubitatif moi-même, si vous voulez, parce que je ne crois pas à la possibilité réelle de cette conversion. Et c'est bien pour ça que je la tourne sous la forme d'une conversion au sens strict, pratiquement une conversion mystique. Ce qui m'intéressait là-dedans, effectivement, là, je pense que je présente les choses de telle sorte que c'est un saut utopique explicite dans le livre. Donc là-dessus, il me semble que le contrat est assez clair avec le lecteur à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? D'abord parce que j'aime bien les sauts mystiques. C'est quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà, c'est une des choses que peut fabriquer la littérature et parfois la vie. Et d'autre part, j'avais envie de produire le monologue qui suit sa conversion. Ce qui m'intéresse, c'est son monologue à ce patron. C'est un grand patron d'un grand groupe de divertissement européen. Enfin bon, à la fois entre l'urbanisme et le divertissement. Et ce qui m'intéressait, c'était que de lui écrire un monologue, en quelque sorte, à ce monsieur, pour faire une part à l'aliénation des riches. Parce que je pense que les pauvres se prennent la machine sociale en pleine gueule, mais d'une certaine manière, tout le monde est pris dans la machine sociale. Et je pense que, d'une certaine manière, le riche lui-même subit sa propre richesse. Il croule sous le poids de ses richesses, dit-il de lui-même. Et il a d'autres expressions un petit peu de cet ordre-là. C'est pas que je veux faire pleurer dans les chaumières sur son sort. C'est pas le sujet. C'est pas ça. C'est que je pense que d'une certaine manière, le fait de posséder un patrimoine aussi large, enfin aussi conséquent que le sien, d'être à la tête d'un groupe comme celui-là, avec un certain nombre de responsabilités, de tout un tas de choses, je pense que c'est aussi un poids, que c'est aussi une aliénation, et que peut-être une des nécessités d'un processus révolutionnaire, ce serait de toute évidence de libérer les plus faibles, mais aussi de libérer les riches, quoi. Moi, je pense qu'il faut en priorité sauver les riches.
Est-ce qu'il y a encore peut-être encore une question, une intervention? Oui, juste monsieur, juste devant vous. Allez-y.
Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Je voudrais m'adresser plus directement à François Bégaudeau. Y a-t-il chez vous une part de situationniste?
Bah, j'ai eu un épisode sentimental avec Guy Debord, ça c'est vrai, je ne peux pas m'en cacher, c'était en 67. Je ne sais pas ce qui vous fait dire ça, mais je me sens pas complètement décalé par rapport à ça, bien sûr. Enfin, moi, de toute façon, comment dire, tout ce qu'a produit de fort et de riche dans la philosophie, dans la littérature, dans les arts, dans la musique, je dirais le moment radical, c'est-à-dire en gros le XXe siècle, et peut-être même spécifiquement depuis l'après-guerre jusque dans les années 80. Alors ce moment-là, pour moi, je l'appelle l'autre siècle d'or de la pensée française, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu quand même, on cohabitait au même moment des gens comme Foucault, Deleuze, Derrida, Badiou, Althusser, dans un autre registre, et puis plein d'autres, Ancière, et plein d'autres. Il y a eu comme ça une espèce d'ébullition intellectuelle et radicale absolument exceptionnelle dans ces années-là. Moi, c'est sûr que c'est mon terreau. Et donc, dans cette glorieuse équipe, que les années 80 d'ailleurs ont contribué à révoquer, ça a été aussi ça les années 80, une espèce de reflux et d'oblitération de ce grand moment radical qu'avait été celui des années 50, 60, 70. Bah, là-dedans, effectivement, il y a Guy Debord, il y a Raoul Van Eghem, qui est mon situationniste préféré, et tout un tas d'autres, bien sûr. Ça m'intéresse beaucoup, cette affaire-là. En plus, c'est intéressant avec le situationnisme, c'est toujours très intéressant pour un écrivain, parce que, clairement, c'est un mouvement qui s'est tenu à la convergence, je dirais, de la politique et de l'art. Hein, ils n'ont jamais séparé le geste esthétique du geste politique. Donc ça, c'est vrai que, pour ça, je pense qu'un écrivain que les idées radicales intéresseraient, il croise à un moment le situationnisme, fatalement.
Mais on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les deux auteurs juste ici pour un temps de signature. Merci Thomas et merci François.
Merci Yann.